Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui dans Nouveau CEO pour parler des leçons que j'ai appris après avoir côtoyé plusieurs centaines d'entrepreneurs la semaine dernière. Donc si vous me suivez sur Insta, vous le savez, je suis monté à Paris pour une semaine. La raison principale, c'est que j'ai participé à l'événement de Geneviève Gauvin, l'événement Catching. Donc elle a organisé un gala pour cet événement-là, un gala Elevate, qui a rassemblé plusieurs centaines d'entrepreneurs. Et j'en ai profité justement pour aller à cet événement, rencontrer d'autres entrepreneurs et faire quelques ITV aussi. Vous verrez qu'ils sortiront très prochainement sur le podcast. Des ITV qui sont vraiment incroyables. Et donc forcément, quand on passe une semaine à côtoyer des centaines d'entrepreneurs, on a énormément d'échanges très enrichissants, on apprend plein de choses. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous tirer un petit peu les leçons que j'ai pu apprendre durant ce week-end. Des leçons qui, vous le verrez, sont assez intéressantes. On va parler de la rat race du salariat. On va parler de mes prédictions cette année en ce qui concerne la formation en ligne. On va voir pourquoi le travail n'est pas toujours que du travail. Vous allez le voir, des leçons qui, je pense, vont vous intéresser. La première leçon que j'ai pu apprendre, elle est tirée littéralement du podcast que j'ai fait avec Geneviève, encore une fois, qui sortira d'ici 3-4 semaines. Et en fait, on parlait un moment dans le podcast du fait qu'il fallait laisser aller certaines décisions, notamment parfois qui sont difficiles, quand on perd de l'argent, quand on lance des projets qui ne fonctionnent pas vraiment. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a marqué, que je trouve extrêmement intéressante. On ne peut pas savoir ce que l'on ne sait pas. Et souvent, quand vous allez faire face à un échec, pas forcément un échec, mais peut-être même une désillusion, quand vous allez sortir une vidéo YouTube qui ne va pas forcément marcher, quand vous allez passer des semaines, des mois à bosser sur une offre, une formation, à bosser sur un SaaS, n'importe quelle entreprise, un projet, quoi que ce soit, que vous lancez ce projet-là et que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Parce que finalement, vous vous rendez compte que vous avez mal timé le truc, vous avez mal pricé l'offre, vous avez mal défini la stratégie de lancement, peu importe. Bref, vous avez fait des erreurs. Le premier réflexe qui est naturel, c'est finalement de s'en vouloir, de se dire « Merde, fais chier, j'ai fait cette erreur-là. Si seulement je ne l'avais pas faite, j'aurais peut-être eu un super lancement, obtenu de super résultats, lancé le projet comme j'aurais voulu le lancer. » Et il y a cette phrase qui est intéressante. C'est qu'on ne peut pas savoir ce que l'on ne sait pas. Et pourquoi je la trouve aussi forte ? Parce que finalement, elle revient mettre un petit peu en question cette notion d'échec. Elle vient remettre en question finalement notre responsabilité, mais presque par rapport à ce qu'on vient de mettre en place. Si je reprends cet exemple-là, vous passez 6 mois à bosser sur une offre, vous faites un lancement et puis vous vous rendez compte qu'il y a des trucs qui n'allaient pas. Le lancement n'a pas été si bien préparé et puis le prix n'est pas le bon et puis il y a quelque chose auquel vous n'avez pas pensé. Eh bien, répétez-vous dans vos têtes cette fameuse phrase. Je ne savais pas ce que je ne pouvais pas savoir. Donc, on ne peut savoir ce que l'on ne sait pas. Et en fait, malheureusement, il fallait vous confronter à cette première expérience, ce premier échec, pour enfin comprendre les mécanismes qui découlaient de ce projet-là. Par exemple, les 4 premiers lancements de formation que j'ai réalisés dans ma carrière, en 2017 et en 2018, ont été 4 échecs. C'est-à-dire que j'ai fait 0 euros sur 4 lancements. Et finalement, à chaque fois, j'ai appris des choses. Premier lancement, je me rends compte que il fallait une page de vente pour lancer une offre. Alors ça peut paraître hyper anodin et assez normal pour la majorité des entrepreneurs aujourd'hui, mais je vous rappelle qu'en 2017, les pages de vente, quasiment personne ne sait ce que c'est. Et donc je lance mon premier produit sans page de vente, et donc là, je vois que ça ne marche pas, et je me dis « Ah ouais, peut-être que j'aurais dû mettre en place une page de vente. » Et puis, le lancement d'après, pareil, je me rends compte finalement que j'apprends de nouvelles choses que je ne savais pas avant. Et donc cette première leçon, elle est très importante parce que de un, ça va vous éviter de vous blâmer lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas forcément. Essayez de vous poser la question, comment j'aurais pu le savoir avant ? Parce que finalement, c'est la première fois que j'essaye, c'est la première fois que je mets ça en place. Je suis obligé de passer par là pour apprendre. Alors oui, si vous pouviez éviter ce genre d'échec en vous faisant accompagner, en vous formant, en essayant d'apprendre, c'est toujours mieux. Mais toujours, le fait est que ça peut quand même arriver de rater quelque chose parce qu'on ne sait pas, vu que c'est la première fois. Et je trouve que c'est intéressant de reformuler cette notion-là de responsabilité. Et le deuxième point, c'est que je trouve cette phrase intéressante parce qu'elle permet de lever les freins quand on veut lancer de nouveaux projets. Je vous le dis, pour pas que vous soyez étonnés, si demain vous lancez quelque chose de nouveau, Ça peut être l'écriture d'un livre, ça peut être le lancement d'une offre, ça peut être le lancement de n'importe quel projet. Il y a forcément des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Il y a forcément des choses qui ne vont pas bien se passer, des échecs entre guillemets que vous allez rencontrer, et c'est totalement OK. C'est tout à fait OK de rencontrer ces échecs, de rencontrer ces erreurs, ces petits défauts, parce qu'à un moment donné, il faut passer par là pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir faire mieux par la suite. Donc c'est une citation que j'ai trouvée hyper enrichissante et intéressante et que je voulais vous partager. La deuxième leçon, c'est que vous n'imaginez pas à quel point vous changez des vies au quotidien. Peu importe la taille que vous avez, l'audience que vous avez, le niveau d'expertise que vous avez. Et comment j'ai pris conscience de ça ? J'ai pris conscience de ça lors du gala. En fait, donc le gala Elevate qui a organisé Geneviève, c'est un gala qui réunit des centaines d'entrepreneurs qui, du coup, ont accédé au bundle catching. Et parmi ces entrepreneurs-là, vu que c'est quand même un microcosme, il y a plein de personnes qui connaissaient plein de personnes. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui ont accédé à Catching, qui me suivaient, qui suivaient Jessica, etc. Et du coup, j'ai rencontré, je vous passe le bonjour si vous écoutez ce podcast, j'ai rencontré plusieurs entrepreneuses qui me suivaient et on a échangé. Et j'ai eu une sorte de dose d'amour exceptionnelle, hein, parce que plein de personnes m'ont dit... j'aime beaucoup ce que tu fais, tu m'as aidé avec tel programme, tu m'aides énormément avec tel contenu, etc. Énormément de reconnaissance. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, qu'on a tendance à oublier. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, notamment à l'ère d'Internet, parce qu'on se retrouve finalement à créer des contenus de notre côté, on se retrouve à faire des vidéos YouTube, des posts Instagram, des DM, envoyer des DM à plein de gens, etc. Et on oublie finalement que derrière chaque chiffre, chaque abonné, se cache une personne qui a une vie, une personne qui met en place des choses, et... si vous faites bien votre travail, une personne qui obtient des résultats. Et je trouve que de un, c'est intéressant finalement de se rappeler ça. C'est intéressant de se rappeler ça parce que je trouve que ça donne une sorte de gain d'énergie incroyable parce que ça vous rappelle pourquoi vous faites les choses. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « t'as changé ma vie », quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « grâce à toi, j'ai pu faire ça », ça permet de recentrer un petit peu votre motivation, de vous dire à chaque fois que vous créez un contenu, que vous lancez une offre, de vous rappeler que derrière, il y a des personnes qui vont consommer ce contenu, qui vont consommer, suivre cette offre, l'appliquer et peut-être, elles aussi, changer de vie. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est que ça m'a poussé, on va dire, où ça m'a fait réfléchir, sur l'espèce de relation, connexion que je voulais créer. Et je me dis, finalement, est-ce que je ne devrais pas entrer plus en contact avec ces personnes-là ? Je ne sais pas encore via quel format, comment je vais le faire, qu'est-ce qui va découler de cette idée-là, mais je trouve que c'est intéressant, c'est important de rester en contact avec le terrain. Et c'est un peu le problème, c'est un peu le problème de la délégation, le problème de monter de niveau finalement dans votre business, de passer de « je fais tout moi-même, à je délègue, j'ai plusieurs personnes qui gèrent les DM, les commentaires, les emails, etc. » C'est qu'on finit par sortir un petit peu du terrain, on finit par sortir, s'éloigner un petit peu de la réalité. Et parfois, cette réalité, elle est importante. Elle est importante parce que ça vous permet de rester connecté avec vos clients, avec les personnes à qui vous changez la vie. Et elle est aussi importante, si on parle purement business, elle est importante parce que ça vous permet de garder un pied sur le terrain quand vous créez des offres, quand vous rédigez vos pages de vente, vos séquences de vente, vos contenus. Le fait de rester connecté avec les difficultés que rencontre votre audience au quotidien, ça vous permet de garder les pieds sur terre et de proposer quelque chose que les gens veulent réellement consommer. Donc, je ne sais pas encore comment je vais mettre ça en place. J'ai commencé petit à petit à réintégrer la gestion de mes DM moi-même et zioter quelques commentaires sur YouTube parce que j'avais quasiment 100% délégué ça avant. Et c'est vrai que ça me permet finalement de me rapprocher un petit peu de cette réalité. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de tomber dans le piège de retourner moi-même à gérer tous mes DM tous les jours, ce qui prend énormément de temps. Et c'est un temps que je ne peux pas consacrer à mes offres qui elles-mêmes aident mes clients. Donc bref, c'est un éternel un cercle vicieux. Mais en tout cas, c'était quelque chose que je trouvais intéressant. À chaque fois que vous avez un doute, à chaque fois que vous posez des questions, à chaque fois que vous avez envie de lancer un projet aussi, allez au-delà de ça, allez au-delà de l'idée, au-delà de la rentabilité et pensez toujours au client final. Il y a certains programmes que j'ai lancés qui, je le savais de base, n'allaient pas être mon top vente, n'allaient pas être mon top formation, n'allaient faire quelques dizaines, voire centaines de ventes, ce qui, à l'échelle de mes programmes, peut paraître peu par rapport à d'autres formations, mais c'est des programmes que j'ai quand même décidé de lancer pour la simple et bonne raison que je savais qu'ils allaient avoir un impact énorme dans la vie de mes clients. Et donc, c'est important de garder ça en tête parce que le but, c'est de générer de l'argent, de faire de l'oseille, de développer un business, mais pas que, d'avoir aussi un impact dans la vie des gens parce que c'est comme ça aussi à long terme que vous allez prospérer et continuer. La troisième leçon, que j'ai trouvée extrêmement importante, et c'est une sorte d'era dans laquelle on est en train de rentrer dans le business. C'est l'era du bien-être. C'est l'era de se dire, et c'est tout l'intérêt, et j'ai trouvé ces connexions incroyables, parce que c'est la semaine où j'ai annoncé nouveau CEO, et c'est durant cette semaine que je me rends compte que de plus en plus d'entrepreneurs en ont marre des business qui se développent beaucoup trop vite, qui se structurent. De plus en plus d'entrepreneurs en ont marre d'avoir des équipes à gérer, de passer 70 heures par semaine à travailler, alors que la promesse de base, c'était d'être libre. Beaucoup plus d'entrepreneurs, par rapport aux années précédentes, en ont marre d'être des managers, envie de retrouver finalement leur cœur de métier, ce qu'ils aimaient vraiment faire à la base, donc créer du contenu, créer des offres, partager des expériences autour de leur thématique. Et en fait, il y a de plus en plus de créateurs de contenu et d'entrepreneurs qui se sont transformés en managers, CEO d'une boîte qui les dépasse. Et de plus en plus de personnes ont suivi en tout cas ce chemin, se sont retrouvés avec des boîtes qui faisaient 10, 20, 30, 40, 50, 100 000 euros par mois. Et finalement, c'est beaucoup de pression, parce que tous les mois, vous avez des équipes à rémunérer. Tous les mois, il faut générer minimum 50 000 euros pour faire tourner le business. Et donc, c'est toute votre vie qui se transforme autour de ça. C'est quelque chose qui devenait de plus en plus palpable dans l'écosystème. Il y a juste à aller sur LinkedIn une journée pour s'en rendre compte. Et j'ai l'impression qu'on revient en arrière. Que ça y est, plein de personnes l'ont vécu et au final se sont dit « c'est pas ce que je voulais à la base ». Et on a eu cette discussion avec Alex de la rat race et de la golden rat race. Vous savez, si vous vous intéressez au monde du business, depuis notamment des années, il y a ce phénomène qu'on appelle le phénomène de la rat race, que je trouve très, très dérangeant. Je trouve que l'appellation n'est pas du tout la bonne. En fait, beaucoup d'entrepreneurs utilisent ce terme-là, de rat race, pour désigner les salariés qui sont enfermés dans ce rythme métro-boulot-dodo et sont dans une roue qui tourne constamment. Et l'argument principal marketing, c'est de dire en gros, sortez de la rat race et développez un business et puis vous serez enfin libre. Et ce qui est peut-être vrai, je ne sais pas, mais il y a quelque chose dont on parle peu, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ont quitté la rat race pour aller vers une golden rat race. C'est-à-dire des entrepreneurs qui, ok, gagnent plus d'argent, donc il y a une roue qui est une roue dorée, ils sont dans un cadre qui est un peu plus sympa, mais ils sont toujours dans la rat race de leur business. C'est-à-dire que ce qu'on disait précédemment, ils ont monté une entreprise qui est tellement grosse qu'ils ont besoin tous les mois de générer des revenus pour faire tourner le business. Ces revenus-là, pour les générer, faut faire des lancements, faut faire des offres, faut faire de la pub, faut constamment être en train de tourner parce que si seulement un jour on a le malheur d'arrêter, tout s'effondre. Et donc, faut faire attention quand vous voulez développer votre business, et c'est toute la nature de ce que je veux faire avec Nouveau CEO, faut faire attention à la direction que vous voulez prendre. Ne cherchez pas à mettre votre vie au service de votre business, mais cherchez à créer un business au service de votre vie. Et c'est deux choses bien différentes. Donc faites attention si vous avez quitté le monde du salariat ou l'écosystème, le système classique, de ne pas vouloir rentrer dans cette routine-là. Faites attention à ne pas vous créer une autre routine qui, sur le papier, a l'air plus sympa, mais en fait vous enferme dans la même méthodologie. Il faut bien faire attention à ça et je trouvais que c'était une conversation qui était intéressante. Et si aujourd'hui vous sentez que vous êtes en train de pivoter dans votre business, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entrepreneurs font face à ces difficultés-là, font machine arrière et c'est tout l'intérêt de Nouveau CEO. C'est pour ça que j'ai envie de faire cet épisode-là. La leçon suivante que j'ai appris durant ce week-end, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup plus que vous ne le pensez, beaucoup d'entrepreneurs doutent, si ce n'est tout le monde. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que même les entrepreneurs gros et avancé. Même les entrepreneurs qui ont une grosse taille, beaucoup de personnes sur les réseaux qui ont un gros business qui se développe bien et qui sont très avancés, qui sont en place depuis plusieurs années. Et c'est souvent quelque chose qu'on néglige parce qu'on s'imagine que le doute s'estompe avec le temps. On s'imagine que le doute, les craintes, les peurs, tout ça, ça s'estompe avec l'expérience et l'expertise. On s'imagine quand on se lance et tout ce monde-là est assez nouveau pour nous, on se dit de suite, voilà, c'est nouveau, il faut que j'apprenne des choses. Je vais poster ma première story, j'ai peur, je ne sais pas comment ça va se passer, j'ai un doute, j'ai une crainte. Et puis, on la lance, on la publie et on se dit « Ok, j'ai envie de sortir une nouvelle offre, ma première offre. Bah, » Pareil, je stresse, je ne sais pas comment ça va se passer, j'ai des doutes, des craintes, des peurs. Et l'erreur qu'on fait, c'est de croire qu'avec le temps, ça va s'estomper. Mais en fait, dans la réalité des choses, ces peurs et ces doutes ne s'estompent pas réellement. C'est juste qu'on est toujours beaucoup plus à l'aise avec des choses qu'on a déjà fait de nombreuses fois. Mais à chaque fois qu'on va mettre en place quelque chose de nouveau, il y aura toujours cette part de doute, de crainte, de peur que ça ne marche pas comme on l'avait imaginé, que ça ne se passe pas comme prévu. Et finalement, c'est des choses avec lesquelles on va dealer toute notre vie. Si demain, vous me demandez comment je me sens lors d'un lancement de formation, je vais vous dire, je me sens extrêmement à l'aise. J'ai pas peur, j'ai pas de crainte, j'ai pas de doute. Pourquoi ? Parce que je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. Un podcast, une vidéo YouTube, encore pire, je l'ai fait des centaines de fois. Par contre, mon livre sort très bientôt. Vous en saurez prochainement, évidemment, lors des précommandes. Et c'est quelque chose qui me stresse, qui me trotte dans la tête, parce que c'est tout nouveau pour moi. Je ne sais pas comment ça va se passer. On est en train de préparer la stratégie de promotion. J'ai aucune idée réellement de ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut que je fasse tel type de contenu, tel type de réel ? Si je fais ça, est-ce que ça va marcher, pas marcher ? J'ai plein de doutes et de questionnements avec lesquels j'essaye finalement d'avancer, parce qu'il y en aura toujours. Mais c'est quelque chose que je rencontre. Et si demain, après le livre, je fais quelque chose de nouveau, pour la première fois, je ne sais pas, moi, Mastermind, j'ai déjà eu fait, mais je fais une conférence en physique, bah, il y aura aussi ces craintes, ces doutes, ces appréhensions-là, parce que encore une fois, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ne vous dites pas, parce que moi, aujourd'hui, je suis plus petit, j'ai des craintes, des peurs, etc., que c'est quelque chose d'anormal. C'est pas parce que la plupart des entrepreneurs avancés ne vous en parlent pas qu'ils ne le vivent pas au quotidien. Et avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer durant cette semaine-là et cet événement, bah, je me rends compte, finalement, que c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal que de rencontrer ces interrogations-là, de se remettre parfois en question, d'avancer dans des directions vers lesquelles on n'est pas sûr de vouloir avancer, de se rendre compte au bout du chemin que bah, en fait, c'est pas ce qu'on voulait faire à la base, de revenir en arrière, de reprendre une autre direction et de se tromper. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, peu importe le niveau auquel on se situe. Le point suivant, quelque chose de très intéressant, et j'ai moi-même plutôt culpabilisé durant ces jours à cause de ça, c'est que cette semaine à Paris est extrêmement chargée. Pourquoi ? Parce que on monte à Paris, j'ai plein de rendez-vous, donc j'avais une soirée mercredi avec d'autres entrepreneurs, il y avait le gala le vendredi, j'avais deux ITV à Calais, et puis j'avais d'autres rendez-vous aussi, et je voulais aussi un petit peu visiter Paris, bref. Et à côté de ça, bah, j'ai mon business. Et aussi, en même temps, je prépare un semi-marathon. Donc imaginez, il y a plein de trucs à faire et à préparer. Et donc, arrivé à Paris, je commence à travailler. Le mercredi, je travaille 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis après, je fais mes petits trucs. Le jeudi, je bosse 1 heure ou 2, et le vendredi, je bosse pas du tout. Et je commence à culpabiliser en me disant, sur mon Toggle Track, le truc où je traque mon temps, je me dis, putain, merde, quand même, cette semaine, bon, j'ai pas énormément bossé, et de suite, il y a cette notion-là un peu de temporelle, de productivité, de me dire, putain, mon compteur est pas énorme, j'ai bossé cette semaine que 5 heures, donc c'est pas exceptionnel. Et la leçon que j'ai tirée de cette expérience, c'est que le travail n'est pas toujours que du travail. Alors oui, vous avez le truc de passion, faire un podcast, vous adorez ça, etc. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle des tâches qui, sur le papier, n'ont pas l'air d'être du travail parce qu'en fait, vous n'êtes pas devant votre ordi, votre téléphone en train de faire des trucs, mais qui finalement le sont. Je prends mes ITV. Sur le coup, en fait, moi, quand je les tournais, on peut appeler ça des interviews, mais c'est des discussions avec des gens que je connais, que j'apprécie et des discussions que je trouve intéressantes. Et donc moi, dans ma tête, je ne l'ai pas process en mode « tiens, ça, c'est du travail » parce que j'étais en train de discuter avec quelqu'un d'intéressant et j'ai juste branché 3 caméras et enregistré ça pendant 2 heures. Et en plus de ça, il y a tout le côté networking, relationnel et du gala parce qu'on a passé une soirée à discuter avec énormément d'entrepreneurs que je connaissais déjà des réseaux d'avant mais que j'ai enfin rencontré en vrai et d'autres événements que j'ai pu faire sur place. Et donc tous ces événements-là, sur le papier, bah, je ne considère pas comme du travail parce que je me dis encore une fois, on est mercredi, je vais aller voir des entrepreneurs, je vais discuter avec eux, ça va être sympa, on va manger un bout ensemble et on va échanger. Pareil vendredi, c'est exactement le même schéma. Et donc ça, je ne le vois pas comme du travail parce que sur le coup, c'est fun, c'est relaxant, on passe des moments agréables ensemble. Sauf que dans la réalité des faits, bah, c'est du travail. C'est du travail parce que même si tu prends ton pied, même si c'est sympa, même si c'est fun, même si c'est autour d'une pizza, bah, tu network, t'entres en relation avec des gens que je vais sans doute revoir, avec qui je vais échanger, avec qui peut-être on va faire des projets, ce genre de choses. Et tout ça a son importance. Et ça, ce phénomène-là, je pense qu'il est répercutable, on peut le répercuter, le revoir, bref, appelez ça comme vous voulez, dans d'autres domaines. C'est pareil avec la lecture, c'est pareil avec les formations. Il y a plein de personnes, moi ça je suis passé au-dessus depuis le temps, mais j'ai le problème aujourd'hui avec le networking, il y a plein de personnes qui voient la lecture, qui voient le fait de consommer une formation comme n'étant pas du travail. Parce qu'ils se disent, je suis pas devant mon ordi en train de taper des mots sur un truc, en train de préparer une vidéo ou que sais-je. Et donc ça, c'est important de le voir, c'est important de prendre du recul et de vous dire ce que je suis en train de faire actuellement. Est-ce que oui ou non ça m'approche de mes objectifs ? Si oui, c'est du travail, c'est une forme de travail, même si ça n'en a pas l'air. Même si c'est cool, même si c'est relaxant, eh bien tout ce qui est networking, discuter, rencontrer des gens, tout ce qui est suivre une formation sur un domaine, tout ce qui est lire, vous informer, ce que vous voulez consommer, Évidemment, on ne parle pas de scroller des vidéos YouTube, des TikTok, des shorts toute la journée, mais on parle vraiment de consommer du contenu intéressant. Tout ça, c'est du travail et c'est important de le noter. Parce que parfois, on peut se dire, sur une journée, moi, ça m'arrive quand je consomme des formations, j'aime bien les consommer d'un bloc, donc 3-4 heures de formation d'un coup, et bien ça m'arrive de me retourner en arrière et de me dire, tiens, aujourd'hui, je n'ai pas bossé. Ou j'ai bossé une heure, mais non. Ça fait 3 heures que je regarde une formation qui va m'aider à faire X, Y, Z. Et donc ça, c'est une leçon importante à retenir. Et le dernier point, qui est le point finalement qui peut-être va vous intéresser le plus, c'est mes deux prédictions pour cette année, en ce qui concerne les formations en ligne. Enfin, il y en a même trois, tiens. J'ai une idée, là. Enfin, je viens d'avoir une troisième idée. En fait, c'est encore une fois, via tous les échanges que j'ai eus, il y a énormément de personnes que j'ai rencontrées qui lancent des formations dans plein de thématiques différentes. Il y a Geneviève avec qui on a parlé du bundle catching aussi, qui le fait depuis 5 saisons, donc elle a quand même pu voir l'évolution ces 5 dernières années. Et pour moi, il y a trois grandes prédictions qui sortent de ça. Bah, évidemment, il n'y a pas que ça qui vous permettent de faire de bonnes formations cette année, mais c'est des prédictions que je trouve assez intéressantes. La première prédiction, on en a parlé avec Geneviève, c'est le facteur de différenciation. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous voulez sortir du lot finalement dans une thématique, si vous lancez des formations sur certains sujets, c'est extrêmement important, plus que jamais aujourd'hui, d'avoir un facteur de différenciation. Ça peut être la temporalité, ça peut être le fait que votre programme il soit pas sur, il soit pas à consommer en ligne directement, mais qu'il soit sur 12 semaines, sur 30 jours, etc. Ça peut être ce côté-là, temporalité. Ça peut être sur le format, c'est-à-dire que bah, si la plupart des entrepreneurs dans votre thématique font des formations en ligne, vidéo à consommer, bah, essayez de changer le format. Ça peut être sur la promesse ou la cible. Si la plupart des entrepreneurs dans votre thématique sortent une formation sur la productivité pour les entrepreneurs, bah, sortez une formation sur la productivité pour les salariés. J'en sais rien, mais ce côté facteur de différenciation, il est extrêmement important parce que bah, plus on avance, plus il y a de personnes qui sortent du contenu dans une thématique et dans la même idée qu'une personne a besoin de se différencier au niveau de sa niche ou de sa thématique, enfin besoin, c'est un facteur intéressant, bah, vous pouvez faire de même au niveau de l'offre. Donc ça, c'est la première idée que je viens juste d'avoir. Et il y en a deux autres qui sont très importantes selon moi. La deuxième, c'est la verticalité des offres. En fait, je pense qu'on arrive vraiment dans une ère où il y a tellement de formations sur tellement de sujets différents que les formations horizontales sont amenées, alors je ne vais pas dire à disparaître, mais sont amenées à être de moins en moins pertinentes. Je parle des formations classiques. Tout ce qui comprend de l'accompagnement avec des coachs et tout, c'est encore différent. Mais au niveau des formations classiques, je suis convaincu que la verticalité est extrêmement puissante. La verticalité, c'est quoi ? C'est aller chercher des problématiques sur une verticale donnée. Et en fait, il faut comprendre que plus vous allez sur une verticale, moins il va y avoir de concurrence et plus votre offre va être pertinente pour votre audience. Je vous donne un exemple d'une formation que moi j'ai sortie sur une verticale qui s'appelle La Boussole. C'est une formation pour apprendre à traquer les bonnes KPI dans son business, donc ses réseaux sociaux, ses leads et ses ventes, afin d'optimiser ses résultats pour parfois doubler ses ventes sur une prochaine offre ou un prochain lancement sans faire plus d'efforts. Cette formation, que je sache en tout cas, c'est la seule qui existe aujourd'hui sur le marché. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, des similaires, mais que je sache, dans mon audience, les gens que je suis, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur une niche et sur une verticale qui est tellement précise. C'est-à-dire que La Boussole, elle va vous aider et vous intéresser uniquement si vous lancez des offres, donc de formation, de coaching, si vous récupérez des emails et si vous voulez optimiser ça parce que vous avez assez de volume dans votre business. C'est-à-dire qu'il faut faire minimum 2 ou 3 000 euros par mois pour profiter de l'offre. Enfin, pour tirer les bénéfices, on va dire, de La Boussole. Donc, si aujourd'hui, vous voulez traquer les bonnes KPI dans votre business et vraiment passer un cap en termes de résultats, bah, c'est une formation qui est faite pour vous. Et donc, cette verticale est tellement unique et précise qu'en fait, j'élimine toute concurrence parce qu'il n'y a personne d'autre qui sort une formation sur le sujet. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des verticales, c'est que bah, quand vous lancez une formation qui n'existe pas ailleurs, quand vous résolvez une problématique qui est tellement précise sur un sujet, que finalement, on élimine toute la concurrence et on a beaucoup plus de chances de sortir du lot. C'est toujours beaucoup plus simple de vendre une formation comme ça, qui n'existe pas, que de vendre une énième formation sur Instagram. Maintenant, au niveau de la verticale, donc vous avez deux verticales possibles, ou vous avez la verticale de la problématique, c'est-à-dire ce que je viens d'expliquer. Je vais prendre un problème tellement précis et niché dans mon domaine. Je pense par exemple au coach sportif. Si vous faites une formation sur la mobilité d'épaule, c'est tellement précis que finalement, on élimine un peu la concurrence. Et la deuxième possibilité, c'est d'aller sur une verticale d'audience. Et ça, beaucoup de personnes le négligent, mais c'est extrêmement efficace. Je vais prendre Instagram, qui est vraiment le truc le plus commun aujourd'hui. Il y a 400 formations sur Instagram. Pour aller chercher une verticale sur Instagram, donc où vous allez chercher une verticale sur une problématique, on va faire une formation sur les carrousels. Et là, vous faites la meilleure formation du monde sur les carrousels. Et tous les gens qui achètent vos formations sur les carrousels, ils deviennent des monstres en carrousel. Les carrousels font un volume incroyable, du reach incroyable, enregistrement, like, commentaire, tout ce que vous voulez. Et en fait, là, vous éliminez toute concurrence parce qu'il n'y a quasi aucune autre formation sur les carrousels. Et donc, la deuxième possibilité, c'est d'aller chercher une verticale sur l'audience. De vous dire, OK, moi, les carrousels, ça ne me parle pas trop. Moi, je veux garder une formation Instagram plus généraliste, donc comment développer son compte Instagram. Mais par contre, je vais aller chercher une verticale sur l'audience. Par exemple, je vais m'adresser aux illustrateurs, ou je vais m'adresser aux coachs sportifs, ou je vais m'adresser aux marques dans le bien-être, ou je vais m'adresser aux salons de coiffure, peu importe. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'on vient sur une verticale sur laquelle il y a peu de personnes, et les stratégies et la formation vont devoir évidemment s'adapter, mais ça va être tellement pertinent pour l'audience en question que le choix va être très simple. Si je sors une formation pour aider les salons de coiffure à trouver plus de clients avec Instagram, bah en fait, demain, un salon de coiffure qui a envie de développer son compte Insta pour trouver plus de clients, à qui il va faire appel? Est-ce qu'il fait appel à moi, qui ai une formation spécialisée sur le sujet? Donc les thématiques, les techniques, les stratégies vont être adaptées en ce sens, ou est-ce que la personne va passer par une formation plus standard avec des modèles et des stratégies qui sont moins adaptées et plus adaptées sur du online? Bah évidemment, le choix par défaut, le meilleur choix, ça va être le choix le plus niché. Donc la verticalité, excellente stratégie pour pouvoir justement vous différencier, vous démarquer. Et la troisième et dernière prédiction sur les formations en ligne cette année, ça va être le « done for you », donc on appelle ça en anglais « done for you », en français c'est du « fait pour toi ». Et en fait, toute l'image du « done for you », du « fait pour toi », c'est de tendre vers des formations qui sont beaucoup plus pratiques et beaucoup moins théoriques et vagues. Alors je m'explique, par exemple, je reprends cette idée de formation carrousel. Donc sur la formation carrousel, vous avez deux possibilités. Ou vous faites une formation qui est beaucoup plus stratégique. Donc voilà ce qu'est un carrousel, voilà comment est-ce que ça fonctionne, voilà comment est-ce que tu peux utiliser le carrousel, voilà des exemples, des machins, voilà comment tu crées ton carrousel de A à Z. Alors au début, tu devrais faire un hook. Bref, vous créez votre formation. La deuxième possibilité, c'est de faire des carrousels done for you. Et en fait, d'enlever la charge mentale à votre client de dire « Ok, donc il faut que je comprenne ce que c'est un carrousel, il faut que je vois comment ça fonctionne, il faut que je fasse ça, ok, je vais essayer de le créer moi-même, ok, mais j'y arrive pas parce que c'est compliqué, machin. » La deuxième possibilité, c'est de dire à votre client « Ok, tiens, je t'ai fait 10 templates de carrousel. » C'est des templates universels, c'est-à-dire qu'il y a 10 structures storytelling, il y a 10 structures de copywriting. Tu as juste à remplacer le texte et ton carrousel, il est prêt. L'avantage de ça, c'est qu'on retire une grosse épine finalement dans le pied de notre client, qui est de se dire « Tiens, je dois suivre la formation, je dois regarder, je dois essayer de comprendre, je dois appliquer », alors qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est des carrousels qui convertissent. Donc ça, ça marche dans plein de thématiques. Ça marche dans la thématique des réseaux sociaux, ça marche dans le sport, ça marche dans la thématique de l'immobilier. Par exemple, dans l'immobilier, plutôt que d'expliquer aux gens donc voilà comment calculer la rentabilité d'un bien, voilà comment calculer la rentabilité d'une ville, peu importe, eh bien, vous sortez une liste que vous mettez à jour tous les mois du top 10 des villes dans lesquelles il faut investir. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous demandez à votre client non pas de chercher lui-même les villes où investir, faire des calculs, des analyses, essayer de comprendre. Non, le client, il veut 10 villes, vous lui donnez les 10 villes et vous mettez à jour tous les mois le truc. Donc, il y a plein de formats qu'on peut prendre. Mais en fait, ce qui est extrêmement intéressant avec ça, et ça l'est d'autant plus dans des thématiques où le temps d'apprentissage est long, compliqué, ce genre de choses, c'est qu'on fait gagner un temps qui est phénoménal à notre client. Et on lui fait gagner du temps parce qu'il n'a pas besoin de regarder un petit peu tout ce qui existe aujourd'hui, il n'a pas besoin de suivre le cours, de l'appliquer, d'essayer de comprendre. Et en plus de ça, souvent, on augmente ses résultats. Parce que quelqu'un qui ne suit pas, n'applique pas forcément, n'obtient pas de résultats, alors qu'avec du down for you, il prend, il modifie ce qu'il y a à modifier et il applique. Et pareil avec l'investissement, pareil avec plein de domaines. Donc pour moi, c'est un peu les trois, deux prédictions et demie, on va dire, parce que la différenciation, ça comprend un peu la verticalité. Donc c'est mes deux prédictions et demie cette année en ce qui concerne les formations en ligne. Donc je pense en tout cas que si vous souhaitez vous mettre aux formations en ligne, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Donc on a terminé aujourd'hui avec cet épisode. Évidemment, j'ai dû oublier un tas de choses et de leçons. Peut-être que ça me reviendra, si c'est le cas, je referai... un autre épisode avec des leçons, plus de vie. Si jamais cet épisode vous a plu, et si jamais Nouveau CEO est un podcast qui vous plaît, eh bien sachez que c'est très simple de me soutenir. Vous pouvez partager ce podcast en story sur Instagram et me taguer. Et vous pouvez aussi laisser une note sur Apple Podcast avec un petit avis, sur Spotify aussi, pourquoi pas. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.